Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous. Merci David pour l'animation musicale. Un petit Britney Spears. C'est l'heure de l'invité du 12-13, votre émission préférée, celle qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui font vivre le territoire. Aujourd'hui, nous recevons l'Office national des forêts, représenté par Frédéric Arieusec, responsable de l'UT d'Aix, Vallée de l'Adour, agence Land Nord-Aquitaine. Bonjour, comment allez-vous ?
Oui, bonjour. Écoutez, merci pour l'invitation. Et puis, bonjour également à tous vos auditeurs.
Très bien, on va passer ensemble. On va découvrir l'ONF, ce que c'est exactement. Parce que comme plein d'organismes, on croit savoir, mais on ne sait pas forcément quelles sont exactement les missions qu'elle remplit. Ça, c'est, voilà. Et puis, on va parler quand même de notre star landaise, c'est la forêt. Hein. C'est quand même, je crois que c'est fondamental. Hein. On en a tous besoin et on l'aime tous. On va d'abord écouter le flash info national et international. Et on se retrouve ensuite pour la première partie de cette émission. Et voilà, c'est parti. Donc, nous retrouvons Frédéric Arieusec. Alors, j'ai énuméré votre poste. Est-ce que je ne me suis pas trompé ? Donc, l'ONF, c'est quelque chose de national, à grande échelle, et vous vous occupez d'une une section, entre guillemets, locale, c'est ça ?
Donc, l'ONF, effectivement, est un établissement public national qui dépend du ministère de l'Environnement et qui a été créé pour l'historique en 1966. Suite à une loi de 64. Donc l'ONF gère les forêts publiques. Et les forêts publiques sont les forêts domaniales, donc qui appartiennent au domaine privé de l'État. Et pour l'essentiel, des autres forêts sont des forêts qui appartiennent aux collectivités et les communes. Voilà. Donc en tout, on s'occupe sur le territoire métropolitain d'environ 4,7 millions hectares.
Oui, c'est pas mal. Ça semble pas mal quand on voit le chiffre lui-même. Je ne sais pas si c'est...
C'est un gros un quart de la forêt française en métropole qui s'élève, dans la surface, s'élève à environ 15 millions d'hectares.
D'accord. Alors, et vous, alors personnellement, quelle est votre trajectoire qui a fait que vous êtes aujourd'hui à ce micro ? Qu'est-ce que vous avez fait pour arriver à ce poste-là ?
Comme souvent à l'ONF, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai une première carrière dans le service de santé des armées, qui m'a mené un peu partout en France, outre-mer, etc. J'ai quitté cette institution en 2001 parce que j'avais envie de changer de métier, de faire autre chose, et je suis entré à l'ONF. Pour l'ONF qui m'a formé pendant 2 ans à côté de Nancy.
D'accord.
Ensuite, j'ai pris un poste qui m'a formé en tant que technicien forestier, tout simplement. Après, j'ai eu un poste en Picardie, j'ai eu un poste sur Bayonne, j'ai eu également un poste à Mont-de-Marsan sur diverses activités liées à la forêt, bien sûr. Et en 2018, j'ai pris le poste que j'occupe actuellement, qui est ce poste responsable d'unité territoriale. Donc, une unité territoriale, c'est une subdivision de l'ONF qui gère, qui s'occupe de la gestion opérationnelle des forêts.
D'accord.
Donc j'ai avec moi une équipe de 8 techniciens, 7 techniciens forestiers et un technicien qui s'occupe de défense de la forêt contre l'incendie.
Alors j'imagine que vous avez commencé technicien, j'imagine que peut-être ce qui vous faisait envie, vous disiez tiens je vais être dans la forêt. Je suppose que le technicien, c'est celui qui est le plus au contact du vivant dans la nature. Je ne sais pas si le poste que vous occupez maintenant vous a peut-être mis un peu plus à distance ou pas. Comment est-ce que ça fonctionne ? Parce que...
Oui, ça m'a mis un peu à distance, effectivement. Mais malgré tout, j'ai des opérations collectives avec le reste de l'équipe. Notamment, on a toutes nos opérations collectives de désignation des arbres, ce qu'on appelle le martelage, qui nous prennent 2 jours par semaine d'octobre à juin. Donc 2 jours par semaine de terrain au minimum, ce qui est déjà assez important.
Ouais, c'est plus, pas mal, oui.
Plus toutes les autres opérations que l'on peut mener sur le terrain en matière de reconnaissance, en matière d'inventaire. Donc grosso modo, j'évalue à peu près sur l'année 40 à 50% mon temps de bureau et le reste en opération de terrain.
Oh, bon, c'est déjà pas mal.
Voilà. Après, effectivement, quand on est technicien forestier, on a un peu plus de temps de terrain. Même si la partie administrative est importante parce qu'un organisme gestionnaire fait la gestion, évidemment, et donc a des comptes à rendre et a des écrits à produire.
Oui. Alors, est-ce qu'il y a une partie que vous qualifieriez de scientifique dans votre travail, c'est-à-dire tout ce qui est inventaire, répertoriation, un petit peu comme un biologiste, vous avez une formation qui correspond un petit peu à ça ?
C'est plus technique que scientifique quand même, c'est pas du domaine de la recherche.
D'accord. Mais je suppose que ça fait peut-être partie aussi de vos partenaires, des gens qui ont ces compétences-là scientifiques.
Oui, on peut être en relation avec des gens de l'INRA, par exemple. On a encore des placettes dans nos forêts de l'INRA pour des essais d'essence, par exemple.
D'accord. Ouais.
On a des opérations qui consistent à essayer des essences nouvelles. Notamment dans le cadre de l'adaptation des essences au réchauffement climatique. Ensuite, on a des placettes de référence où des scientifiques viennent. On a une placette de référence où des scientifiques mesurent, c'est ce qu'on appelle le réseau René Cofort, des scientifiques mesurent l'évolution des forêts sur plusieurs dizaines d'années.
D'accord. Ouais. Et la forêt, alors elle est constituée en grande partie de... Enfin non, on pense souvent au pin maritime en premier, bien sûr. Il y a aussi du chêne et du peuplier. Enfin, en tout cas, pour votre secteur à vous, c'est essentiellement ça les essences qui vous concernent.
Oui, j'ai cette chance d'avoir à la fois du résineux, à la fois du... et à la fois du feuillu. Parce qu'effectivement, quand on pense aux Landes, on pense au plateau landais qui fait 1 million d'hectares et au cordon dunaire où on a du permaritime. Mais les Landes, ce n'est pas uniquement du permaritime. On a à Sud-Adour des peuplements de chênes pédonculés et un petit peu de peuplement de peupliers.
Oui. Et donc ça, alors... on en a parlé hors antenne, donc ces essences-là, en tout cas le pin maritime, on a tous en tête le côté entre guillemets en grande partie artificiel historiquement du massif forestier landais, mais en fin de compte il était là bien avant qu'on commence à l'exploiter en fait.
Oui, le pin maritime est présent au moins depuis l'Antiquité. On sait que les Romains exploitaient le pin maritime pour la poix sur la côte. Dans le Marensin, le pin maritime était présent dans le Marensin, sur la côte. Par contre, il était présent en l'état sporadique sur le plateau landais, mais sur le plateau landais, effectivement, on avait plutôt un paysage de lande, c'est-à-dire de milieux ouverts, avec des milieux qui étaient très humides l'hiver, qui n'étaient pas drainés. C'est ce qu'on voit dans les gravures habituelles avec les échassiers. La forêt de pin maritime dans les Landes, elle date plutôt elle est consécutive plutôt à l'intérieur des terres, au grand reboisement issu de la loi de 1857 que l'on connaît. Par contre, dans le Sud-Adour, les peuplements de chênes que l'on trouve ont une histoire qui souvent remonte au Moyen-Âge.
Alors c'est souvent, les forêts de chênes sont souvent proches de l'eau directement, il y a une incidence directe ?
Oui, il y a une incidence directe parce que quand l'agriculture s'est installée dans ces milieux qui étaient plus propices à l'agriculture que le Nord-Adour, que le plateau landais, eh bien on a laissé les peuplements de chênes et les boisements en bord de rivière, en fond de vallée alluviale, là où il y avait les inondations, tout simplement.
Oui. C'est-à-dire que le chêne a peut-être plus besoin d'eau que le pin maritime, il est un peu plus rustique lui, un peu plus costaud pour ça.
Le pin maritime est une essence qui est très robuste, plastique, qui est très frugale. Le chêne, a besoin de milieux plus riches, a besoin d'eau, il est très adapté dans les fonds de vallée alluviale du Sud-Adour.
Oui.
Le chêne pédonculé, je parle, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs chênes.
Ah oui, il y en a plein, oui.
Oui, il y a plusieurs essences.
Et oui, alors on connaît aussi bien, mais là c'est un peu plus loin sur la côte, les fameux chênes liège, qui peut être exploité aussi pour son écorce, qui est un peu particulière. Alors on parlait vous parliez au début de la forêt en France. Il ne faut pas oublier aussi que... J'ai pas les chiffres en tête, je les ai, mais si on parle du territoire d'outre-mer, je pense que le record en France, c'est quoi ? C'était de la Guyane, non ?
Parce que... Oui, c'est l'Amazonie.
Oui, voilà, parce que c'est là... C'est,
Je crois que de mémoire, c'est dans les 8 millions d'hectares.
Oui, voilà, ouais, c'est ça. Voilà, parce que si on compte... Si on enlève ça du territoire français, qu'on compte tout ce qu'il y a en métropole, là, on tombe à des chiffres beaucoup plus bas, c'est sûr que...
Oui, mais 15 millions d'hectares de forêt, c'est 30% du territoire métropolitain, ce qui est pas mal quand même.
Oui.
Et d'ailleurs, la surface a doublé en 200 ans depuis la Révolution. Donc on est sur notre trajectoire quand même qu'une trajectoire de progression.
D'accord. Alors, en tant que personnel de l'ONF, justement, alors je parlais de la Guyane, mais peut-être, vous, c'est possible aussi, vous avez des collègues là-bas aussi ?
On a des collègues là-bas, on a dans les départements d'outre-mer, c'est-à-dire Guyane, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, on n'est pas présent dans les territoires d'outre-mer.
Oui. D'accord. Bon, alors après, ça ne va pas être tout à fait le même job. Hein.
Non, en effet, oui.
J'imagine. Ça, c'est pas les mêmes problématiques, c'est pas les mêmes essences, c'est pas le même climat. Tout est différent. Bon, ça va être sympa aussi. Ouais, ça change. Plus exotique. On va déjà faire une toute petite première pause. On va écouter un petit peu de musique. Et on va retrouver notre invité ensuite pour la deuxième partie de cette émission. Et nous sommes de retour avec Frédéric Arieusec de l'ONF. Alors, comme je disais, Rantaine, bon, le travail de l'ONF, en fait, bon, il se trouve en France, bon, c'est une chose, mais dans les Landes, en tout cas, une chose est sûre, c'est que l'énorme majorité des bois qu'on voit, etc., appartiennent à des privés. Hein, donc on m'avait dit un chiffre de l'ordre de 92-93%, je crois que c'est
ça. Oui, c'est exact. Sur le plateau landais, c'est autour de 93%.
Ouais, voilà. Donc vous êtes le civiculteur qui s'occupe du reste, de ce qui appartient à l'État, en tout cas, on va dire en gros.
À l'État, oui, ce qui appartient à l'État, plutôt le domanial est sur le cordon dunaire. Hein, et ce qui appartient aussi aux communes. Donc on a des communes aussi sur le plateau landais, des forêts communales sur le plateau landais. Mais on a aussi de la forêt communale dans le sud Adour. Qui, elle, comme je le disais tout à l'heure, était constituée plutôt de chênes.
Donc alors le bois, c'est une ressource, hein, c'est exploité, voilà, c'est comme des gens, des agriculteurs peuvent planter du maïs ou du soja ou que sais-je, et les récolter après, ben, c'est un peu le même job que vous faites, mais avec une temporalité qui est un petit peu différente quand même.
Oui, ben, le bois, l'exploitation forestière fait partie de la gestion forestière. Bon, il n'y a pas uniquement que cet aspect, mais ça en fait partie évidemment, surtout ici dans les Landes. Après, oui, on a d'autres temporalités. Par maritime, c'est un cycle de 40 à 45 ans à peu près. Hein.
Eh oui.
Chêne pédonculé, le chêne pédonculé tel qu'il est mené dans le sud Adour, c'est entre 100 et 120 ans, ce qui est court pour un chêne, hein, d'ailleurs.
Oui.
Parce qu'on peut avoir des peuplements que l'on gère sur 150, 180 ans, voire 200 ans ailleurs en France. Alors c'est court en sud Adour parce que les milieux sont propices, parce que la période de végétation est longue, parce que la température est douce et parce qu'il y a de l'eau.
Oui. Voilà, l'essence s'y prête aussi probablement. Oui, donc il faut être optimiste quand on plante un arbre, en fait. Non, parce que vous avez une vision, comment dire, de ces cycles de la nature qui n'est pas la même que nous. On plante un truc tous les ans, on le ramasse éventuellement, on a des fleurs qui poussent. Vous ne vous dites pas, je vais faire deux cycles sur cet arbre-là.
Non, c'est effectivement, c'est toujours un pari sur l'avenir, quelque part. Après, quelqu'un qui s'occupe de pères maritimes peut espérer planter et voir une récolte.
Oui.
Quand on est dans le peuplier sur des cycles de 16 à 18 ans, on peut espérer voir plusieurs récoltes. Bon, effectivement, dans le chêne, oui, c'est plus compliqué, bien sûr,
oui, là,
mais c'est même impossible.
Oui, ouais, c'est vrai. Ouais. Alors, mais cette ressource, ce bois, hein, parce qu'on va parler de cet aspect ressource, parce que ce n'est pas le seul, mais on va en parler. Et à quoi sert-il ? Voilà. Donc, vous le récoltez quand vient le moment. Alors, quand vient le moment, justement ? C'est quoi ? Quand il a un certain âge, une certaine taille, un certain diamètre, qu'est-ce qui vous indique le fait qu'il faut récolter telle parcelle ?
En fait, on le récolte tout au long de la vie du peuplement, et je m'explique. Bon, si je prends l'exemple du père maritime, il n'y a pas uniquement que la récolte finale à 40 ans, qui elle demande des bois de 40 cm de diamètre. On a également, entre-temps, ce qu'on appelle des améliorations, des éclaircies.
D'accord.
Nous, on pratique 4 éclaircies durant la vie du peuplement. Qui s'étale à peu près de 11 ans jusqu'à 30 ans.
D'accord.
Et dans ces éclaircies, à chaque fois que l'on passe pour marquer les arbres, on va essayer de choisir, d'enlever les plus vilains, les plus tordus, les plus branchus. Et on essaie de garder les bien portants pour le futur peuplement.
D'accord.
Donc, toutes ces améliorations constituent également des récoltes de produits intermédiaires qui seront vendus. D'accord. Et c'est pareil pour le chêne. Mmh. Bon, pour le chêne, on aura entre 7 et 8 améliorations, par contre, sur toute la vie du peuplement. Mmh. Et avec différents produits intermédiaires qui seront vendus pour des usages qui dépendront de leur diamètre et puis de la pétence de l'acheteur.
Ouais, c'est ça, ça dépend du marché, quoi, on va dire. Ouais. Et alors, le bois du pin, qu'est-ce qu'on en fait majoritairement? C'est quoi les exploitations du bois? Bon, alors moi, dans ma tête, j'imagine, bon, bien sûr, faire des planches, des poutres, les petits morceaux, je ne sais pas, est-ce qu'on en fait, on les valorise pour le chauffage? C'est quoi les
usages? On peut faire de la trituration, il y a plusieurs usages, hein, trituration, de la palette, du lambris, des parquets, on peut le triturer, on peut le scier, voilà. Donc, tout dépend de la grosseur des bois, de leur qualité aussi, et du marché également.
Alors, au niveau matériel, au niveau technique, moi, j'ai déjà vu, hein, une machine impressionnante qui coupe, qui enlève les branches, qui débite et tout. C'est vraiment impressionnant. Donc, c'est ce genre d'engin que vous utilisez ou est-ce que le bon vieux... La bonne vieille tronçonneuse a encore de l'avenir devant elle.
Oui, alors, ce sont les acheteurs qui utilisent ces machines. Nous, on n'a pas ce genre de machine, oui. puisqu'on est gestionnaire, on n'est pas exploitant. Alors, dans le permaritime, oui, c'est très mécanisé. On trouve surtout ça. Dans le peuplier, on a encore des gens qui abattent.
Oui.
Et dans le chêne aussi.
Mm. Ouais. Voilà, c'est pas la même durée, parce que là, on nettoie une parcelle en plus de temps à la tronçonneuse, j'imagine, qu'avec les machines.
Oui, mais bon, on a parfois besoin de cette technique,
oui.
de cette technicité sur certaines parcelles et sur certains chantiers. Et toutes les machines peuvent pas avaler des diamètres, oui. D'énormes diamètres avec beaucoup de branches.
Oui, c'est sûr. Alors, une question que je vous avais posée hors antenne, c'est que moi j'ai remarqué que souvent, quand je me promène, je vois des parcelles, ça a été ratiboisé. Alors, il reste donc des souches et des chênes. C'est-à-dire que les chênes ne sont pas touchés, parce qu'il y a des fois 3-4 chênes, pas très gros en général, qui sont dans la parcelle. Ils sont épargnés en général. Donc, je me demandais si c'était, une réglementation ou un usage...
Alors vous parlez de coupe de pin, je suppose.
Oui, coupe de pin, puis quand il reste quelques chênes sur la parcelle, on voit qu'eux, ils sont épargnés.
Non, ça fait partie des usages. Bon, ouais. De toute façon, les acheteurs qui achètent du pin exploitent le pin. Mm-hmm. Mais on essaie de garder, nous, dans nos pratiques, le plus possible de feuillus pour la diversité.
Oui. Voilà. Oui, c'est vrai que, oui, alors c'est le moment de dire aussi que vous n'êtes pas juste pour faire pousser une ressource. Vous avez dit aussi que vous travaillez un petit peu comme un jardinier, hein, qui va enlever les gourmands ou les mauvaises branches pour garder les bonnes. Hein, vous faites en plus ce travail.
Oui, il y a cet aspect-là d'amélioration des peuplements. C'est la sylviculture.
Ouais. Mais vous êtes là aussi dans une optique aussi de conservation, parce que c'est un patrimoine aussi... biologique, hein, des biodiversités, etc. La forêt, il y a des tas de plantes et d'autres animaux qui vivent, donc ça fait partie aussi des attentions que vous portez à la forêt.
Oui, il y a plusieurs aspects. Alors, il peut y avoir l'aspect conservation du milieu, c'est-à-dire conserver des bois morts, par exemple dans les peuplements. Nous, on a dans nos pratiques, on doit garder 1 à 2 bois morts à l'hectare, par exemple, pour toute la faune qui est liée à ces milieux, aux bois morts et aux cavités.
Oui.
On peut être amené à garder des mares forestières ou certaines pelouses intéressantes pour la biodiversité. Après, il y a un autre aspect là-dedans, c'est que on doit gérer durablement et donc on doit se préoccuper du renouvellement de la ressource.
Oui, c'est ça.
On ne peut pas se contenter de prélever en forêt comme dans une mine.
Oui.
Et donc, il faut réfléchir et gérer justement le renouvellement. Alors, que ce soit par régénération naturelle ou par régénération artificielle, c'est-à-dire des plantations.
Oui.
Mais ça fait partie de notre réflexion, évidemment.
Oui, c'est sûr que vous êtes obligé de réfléchir sur des comme je disais tout à l'heure, sur des durées qui sont pas de l'immédiateté. Vraiment, il faut vraiment penser, réfléchir à une ressource dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans. C'est une discipline particulière. Hein.
C'est vrai que c'est souvent, souvent ça suscite un peu d'incompréhension quand on nous voit arriver avec ces échelles de temps qui s'étalent sur des décennies.
Oui, oui, oui.
Bon, alors que bon, les élus ont souvent des horizons qui sont sur 5 ans, 6 ans,
oui,
sur leur mandat.
Et oui, c'est ça.
Mais ça, souvent, ça intéresse et ça interpelle. Parce qu'un élu qui est en charge de la forêt, finalement, travaille aussi pour ses futurs administrés, les enfants de ses administrés, pour le patrimoine de la commune.
Et oui, bien sûr. Ouais.
Et tout à coup, vous avez une dimension qui est complètement différente dans le travail de l'élu, de cette capacité de se projeter dans le futur.
Ouais.
Et c'est quelque chose qui peut être très intéressant et très valorisant.
Ça tombe bien parce que c'est un petit peu ce qu'on attend d'eux aussi, d'ailleurs, quand on vote pour eux. C'est le moment de faire une petite pause musicale encore et on va écouter le Flash Info local cette fois-ci. Et on se retrouve ensuite. Et nous voilà de retour dans notre chère forêt. Alors voilà, on a notre chère forêt, justement, on sait qu'elle est un petit peu, des fois, en danger. On va parler un petit peu des choses que vous devez aussi prendre en compte. Vu de l'extérieur, alors sans être un spécialiste, bon, moi c'est vrai que je pense à deux choses qui peuvent m'inquiéter en tant que simple usager, c'est le feu et le nématode. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire de tout ça? Alors la gestion du feu, je pense que depuis toujours, même hors réchauffement climatique, ça fait partie de vos missions, ça fait partie du danger qu'il faut gérer constamment, ça.
Oui, après la gestion du feu... C'est quelque chose qui est ancien. On se souvient ici dans les Landes des incendies de 1949 qui avaient ravagé le nord des Landes et puis le sud de la Gironde et qui avaient entraîné la mort, je crois, de près de 70 à 80 personnes. Alors nous, on intervient en préventif et en curatif parce que le feu, c'est l'affaire des pompiers.
Tout à fait.
Donc on intervient en préventif à travers une mission d'intérêt général que nous confie l'État. En fait, c'est quelque chose qui était surtout présent dans le Sud-Est et qui a été décliné depuis sur la façade atlantique et dans le reste de la France depuis les incendies de 2022. Donc ça s'est traduit par des missions supplémentaires, des moyens en poste supplémentaires. Et dans ce cadre-là, on agit sous l'autorité de l'État à travers les préfectures qui nous donnent nos missions et les missions à réaliser. Donc ça peut consister en des patrouilles l'été, ça peut consister en des actions de formation auprès des collectivités, ça peut consister en des actions de surveillance et de détection des problèmes liés aux obligations légales de débroussaillement. Actuellement, ce qui est ciblé, c'est plutôt les parcs photovoltaïques, les lignes électriques et puis les campings et les grands axes de circulation. On a aussi des placettes où on va essayer de tester, récolter des végétaux pour voir leur état hydrique. Et ça fait partie des indicateurs dont se sert Météo France pour bâtir leurs alertes.
Oui.
Donc là, on est dans le préventif. Et dans le curatif, bien sûr, quand les bois, les forêts sont incendiées, il faut exploiter les bois brûlés et ensuite songer au renouvellement derrière, aux plantations.
Alors après, ça fait partie aussi du cycle de la vie, le feu, dans certains endroits, notamment, on fait bien des fois de l'éco-buage. Enfin, bon, des fois, je sais qu'en Australie aussi, il y a des incendies. Avant qu'on les gère, les êtres humains, les incendies existaient avant.
Oui, il y a toujours de l'éco-buage, d'ailleurs, dans les Pyrénées-Atlantiques, mais c'est quelque chose qui est encadré maintenant.
Oui, parce que c'est dangereux.
Oui.
Et donc, vous me disiez ce fameux pain maritime, alors parce que moi je me posais la question, est-ce qu'il était toujours d'actualité? Est-ce qu'il n'était pas un peu mis à mal par le réchauffement climatique, les stress hydriques et tout? Mais vous me disiez, bon non, c'est une espèce quand même endémique et puis il est assez costaud pour encaisser, en tout cas pour l'instant, il est bien à sa place.
On a cette chance d'avoir cette essence qui est une bête de course en fait, qui est plastique, qui est frugale, qui résiste à beaucoup de choses. Donc le pain maritime a de l'avenir dans le sud-ouest, malgré ces problèmes de réchauffement climatique.
Oui. Alors voilà, il y a un autre ennemi aussi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de lui d'ailleurs, c'est ce fameux nématode. Hein. Alors j'en profite d'occasion pour dire que voilà, il y a des saisons aussi à la radio, et là, c'est la saison des stagiaires. Et on a Kenza qui est dans le studio aussi, voilà, vous l'entendrez peut-être un de ces jours. Elle a participé un peu à la préparation de cette émission. Je lui ai confié la tâche de se renseigner sur le nématode. Et donc voilà, elle m'a suggéré, devant les questions qu'elle pouvait se poser, elle, hein, de, déjà, dire qu'est-ce que c'est cette maladie, ce nématode, qu'est-ce donc? Parce que vous devez être au courant, à mon avis, un petit peu.
Oui, bah, ça fait partie, oui, hélas, je dirais, de nos sujets d'actualité, hein, dont on aurait bien aimé se passer.
Oui.
Donc c'est un ver microscopique qui s'attaque à certains résineux dans le père maritime, qui est nord-américain, et qui est arrivé chez nous, là, tout récemment, en passant après une escale au Portugal et en Espagne. Bon, il est d'abord apparu en Europe, à Lisbonne, et oui, au Portugal, et ensuite il s'est répandu dans la péninsule ibérique. Alors le nématode, donc ver microscopique, qui est porté par, qui ne se déplace pas tout seul, qui est transporté par un coléoptère qui s'appelle le Monocamus.
Oui.
Alors vous vouliez savoir, je suppose, ce qu'on pouvait faire comme, voilà, mettre donc, en place comme oui, moyen de lutte.
Quel est l'état des lieux déjà? Parce que bon, on en a entendu parler il y a quelque temps, on entend moins parler. Donc il y avait eu un foyer à Seignos, je crois, du côté d'Angresse aussi, oui, à un moment donné.
Il y a un deuxième foyer qui a été détecté en Grèce. Mm-hmm. Bah, l'état des lieux, on a, il y a une zone qui est de 20 km qui a été mise en place au niveau autour de ces deux foyers, mm-hmm, et dans laquelle toutes les activités liées à l'exploitation forestière. Enfin, ça ne concerne pas que la forêt, ça concerne aussi les parcs et jardins d'ailleurs.
Oui.
Toutes ces activités sont réglementées, sont surveillées pendant une période pour l'instant qui sera de 4 ans.
D'accord.
Les exploitations, donc il y a plusieurs aspects. Les exploitations déjà vont être limitées pendant la période hivernale. Pourquoi ? Parce que le vecteur, ce Monocamus, ne se déplace pas pendant cette période-là. Mmh. Comme autre activité, donc il y a eu l'exploitation de la forêt autour du foyer de Seignos, oui, sur un rayon de 500 mètres. Mmh. Il y a des actions également de détection d'arbres dépérissants dans des périmètres qui vont de 0 à 3 km.
Alors c'est quoi ? C'est des prélèvements ou c'est juste visuel ? Comment ça se passe ?
Oui, c'est l'identification d'arbres dépérissants. Mmh. Il y a des prélèvements qui sont mis en place pour analyse, pour voir s'il y a si le nématode est présent. Mmh. Et ensuite, il y a des phases d'abattage et de destruction sur place de ces bois-là. Parce que le cycle passe par le cycle du vecteur passe par ces bois dépérissants. Là, on va commencer à explorer, pour ce qui nous concerne, des zones qui s'étendent de 0 à 6 km à partir du foyer principal. Donc là, on va travailler plutôt sur photo aérienne. Et on va aller chercher tous les bois qui sont repérés pour destruction. Alors nous, on ne travaille qu'en forêt communale, qu'en forêt publique.
Oui, bien sûr.
Pour destruction sur place et éventuellement pour évacuation sous forme de copeaux. Et tout ça va finir soit dans des entreprises agréées, soit pour transformation, enfin surtout pour brûlage,
oui, voilà,
et pour destruction.
Alors comment est-ce que ça se gère tout ça? Parce que on l'a dit tout à l'heure, une grande majorité du massif forestier est privée. Du coup, bah, vous n'avez pas de moyens de coercition, de dire chez le privé, vous avez le nématode, vous devez débrouiller, gérer. Comment ça se passe justement, c'est la partie privée, parce que ils sont concernés forcément.
Oui, ils sont concernés, mais les services de l'État, notamment la DRAF, est là pour conseiller.
Oui.
Et ensuite, ils peuvent faire appel à des coopératives privées ou des entreprises privées pour travailler sur leur propriété.
D'accord. Voilà.
Mais pour ce qui concerne les prélèvements, il y a aussi des actions qui sont menées dans ces propriétés privées.
Hein, oui.
Ça ne concerne pas uniquement que les forêts publiques.
Oui. Voilà. C'est-à-dire que le Monocamus, il reste pas que sur les... Il choisit pas si c'est privé ou public, lui, il s'en fiche.
Exactement.
Alors, c'est quoi justement alors les moyens d'action? C'est quoi votre marge de manœuvre? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter... C'est quoi? C'est la politique de la terre brûlée? C'est-à-dire, j'ai rasé les grandes surfaces pour pas que ça se répartisse?
Non, c'est quoi pour l'instant, c'est la surveillance. C'est faire des prélèvements, des analyses. En fait, on cherche finalement, l'angle d'attaque, c'est surtout travailler sur, sur le vecteur et éviter la de travailler pendant les périodes où le vecteur vole, c'est-à-dire la période chaude.
Oui.
Voilà. Donc là, on est, parce qu'évidemment, on n'a pas grand-chose à faire directement contre le ver lui-même.
Oui, oui, c'est sûr. Oui. Alors, donc ça vient, on l'a dit au début, dans les infos à l'époque, on en a parlé pas mal d'Espagne et Portugal. Bon, je suppose que le profil correspond un petit peu au niveau forêt et essence, hein, là-bas, c'est peut-être pour ça que voilà, nous on a la même chose. Alors, est-ce que vous avez des échanges avec les... parce qu'ils s'y sont passés avant vous, déjà.
Oui. Oui.
Donc, est-ce que vous avez des échanges avec eux, ou justement, ils servent un petit peu de référence, sachant qu'ils ont déjà des infos que vous n'aviez pas au départ, peut-être?
Oui, il y a des échanges, hein, mais... Après, faut savoir quand même que tout ce qui est fait actuellement découle d'une réglementation européenne. Mm. Voilà. Donc, parce que c'est un organisme dit de quarantaine, et donc il y a des choses de niveau européen qui s'appliquent.
Ouais.
Alors effectivement, ils sont passés malheureusement par là avant nous. Bon, on sait qu'il y a des foyers en Espagne qui ont pu être contenus, donc ça laisse quand même, ça laisse quand même de l'espoir.
Oui, voilà. Ouais. Ouais. Après, ça reste quand même pour vous une... comment dire, un danger non...
Bien sûr, parce que c'est un danger, parce que si cela contamine le reste du massif landais, c'est toute une économie qui s'écroule. Mmh, et ça peut être catastrophique, effectivement.
Oui.
Donc, oui, alors ce sont des opérations lourdes, c'est 4 ans de surveillance. Quatre ans pendant lesquels les propriétaires auront du mal, ne vendront pas leur bois parce qu'il n'y aura pas d'acheteurs, pour, ou très peu d'acheteurs pour ces espaces-là, parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Ça fait quatre ans pendant lesquels on aura de la surveillance, mais bon, l'enjeu derrière est énorme pour le massif landais.
Voilà. Oui, puis il faut surveiller aussi, bon, là, comment dire, vous allez surveiller les alentours des endroits qu'on connaît déjà comme étant contaminés, mais... il faut aussi faire attention que ça n'apparaisse pas ailleurs, même en dehors de votre juridiction à vous personnelle, plus loin dans le nord, etc.
Bien sûr.
Il y a aussi des prélèvements qui se font de manière aléatoire.
Oui,
un
c'est
peu
le
suivre.
Département de santé des forêts qui gère cet aspect-là, qui est un organisme du ministère de l'Agriculture.
D'accord.
Et qui fait des prélèvements réguliers sur le massif pour voir si il y a des ravageurs ou de nouveaux ravageurs exogènes, on va dire.
Ouais,
et d'ailleurs,
ouais.
C'est comme ça que le nématode a été découvert,
suite
à des campagnes systématiques de prélèvements.
Okay. Et on a une idée un petit peu de pourquoi, comment est-ce que c'est un insecte là, qui s'est retrouvé par hasard là, enfin, je ne sais pas s'il y a des théories ou...
Non, on n'a pas vraiment d'idée. On n'a pas d'idée arrêtée, définitive et sérieuse sur ce qui a mené ce ver là, ici à Seignos. Non, il y a des hypothèses, oui.
Ouais, il y a des gens qui ont parlé évidemment du chantier, du fameux chantier RTE, que ce serait peut-être eux qui auraient amené avec des véhicules.
Oui, bon, comme tout le monde, j'ai entendu cette hypothèse,
voilà,
mais ce sont des hypothèses.
Oui, bien sûr.
Je pense que ça va... enfin, je ne suis pas certain qu'on puisse trouver la réponse un jour.
Très bien. Et on va faire une dernière pause, écouter encore un petit peu de musique, et on se retrouve ensuite pour la dernière partie de cette émission. Et nous voilà à la dernière partie de notre émission. Donc, il y a des choses dont on n'a pas parlé rapidement, on va en parler un petit peu. Vous avez fait des actions aussi un petit peu pédagogiques, autres que voilà, s'occuper des arbres directement, aussi s'occuper de la connaissance de la forêt, vous aider des gens, notamment des fois, ça peut arriver des scolaires éventuellement, ça c'est bien.
Oui, alors... Là, on est plutôt en partenariat avec le syndicat intercommunal le CIVU des Chênaies de l'Adour, qui a l'ORED. Alors, le CIVU des Chênaies de l'Adour, c'est un CIVU qui a été créé en 1980 pour mettre en œuvre des programmes de reboisement au départ. Mmh. Mais il s'est lancé aussi dans des actions de pédagogie. Et on participe à ces actions auprès de scolaires.
Mmh.
En lien avec aussi le CPIE du Seignanx. Donc on accueille des scolaires en forêt sur des demi-journées souvent, avec du matériel sous forme de mallettes pédagogiques, ce sont des créations ONF, et pour leur expliquer un peu le fonctionnement de la forêt. Bon, évidemment, ça reste, on reste dans les grandes lignes, ça peut rester aussi un peu ludique, on fait mesurer des arbres, etc., Donc il y a ces actions-là. Alors moi aussi, je reçois de temps en temps des élèves ingénieurs une fois par an de Bordeaux Supagro pour leur montrer ce que l'on fait en matière de feuillus. Voilà les quelques actions que l'on peut mener en termes pédagogiques.
Très bien. Et puis alors donc du coup on a des choses à dire parce que là on est déjà, qu'on le veuille ou non, en regardant le calendrier, on est quand même dans l'été. Il commence à faire très chaud. Donc à notre premier ennemi, hein, c'est le feu. Donc il y a des consignes à suivre et puis un petit peu de bon sens aussi.
Oui, c'est surtout du bon sens. Ça va être faire attention aux mégots que l'on jette, faire attention au barbecue que l'on quand l'on met en place à proximité de forêts. Voilà, tous ces petits gestes qui peuvent dégénérer et puis entraîner des grandes conséquences. Voilà, donc là, c'est plutôt sur le registre du comportement personnel. Voilà, alors que oui. Alors, si vous voyez des gens de l'ONF vous sermonner cet été parce que vous avez un mégot à la main, bon, leur jetez pas la pierre, ils sont dans leur rôle.
Oh ben oui.
Voilà. Ensuite, bon, il y a tout cet aspect-là, évidemment. Moi aussi, on insiste sur la période estivale et le feu parce que là, ça approche. Moi, j'insisterai aussi sur les déchets en forêt. Bon, je crois qu'il n'y a rien de plus pénible que de tomber sur des déchets.
Oui.
Au détour d'une parcelle, que ce soit sur des déchets ménagers ou des dépôts de gravats, alors que maintenant, bon, on a accès à des déchetteries un peu partout.
Et oui, et qu'on fait du recyclage et tout, on fait des efforts sur ça. C'est dommage de salir la forêt parce qu'on a un peu la flemme d'aller à la déchetterie. Parce qu'il y a quand même un dispositif qui existe partout qui est assez costaud. Eh bien, très bien. Eh bien, nous voilà arrivés à la fin de cette émission. Bon, mais espérons que la chaleur soit clémente et qu'on garde la possibilité d'aller dans la forêt aussi, parce que quand il fait très chaud, c'est interdit, et pour des bonnes raisons, parce que régulièrement, il y a des incendies qui sont causés par des véhicules de personnes qui pensent pas faire mal, mais sauf que, voilà, ils font mal, voilà, c'est comme ça. Il faut préserver cette forêt, on en a besoin, parce que c'est à la fois une ressource économique très importante. Et puis c'est notre poumon d'oxygène et de verdure, et voilà, ça fait partie de notre patrimoine landais.
Voilà, vous avez tout dit, j'ai rien à rajouter.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous parler de cette belle forêt. Merci, au revoir.
Au revoir.